Ce matin, je voudrais vraiment qu'on s'arrête à travers de la parole de Dieu. Est-ce que ça vous arrive de prier pour une douleur, toutes sortes de douleurs? On pense souvent à la maladie, le deuil, etc. Et on crie vers le ciel, et parfois on crie avec des larmes aux yeux, en citant toutes les promesses de Dieu. Et pourtant, le ciel reste fermé. Alors le corps continue à gémir et à gémir, jusqu'à avoir des doutes. Et ces doutes te poussent à murmurer contre Dieu en disant « Mais Dieu, tu es sourd ?» Où on se dit « Ma foi est trop petite pour qu'il entende ma prière. Ou je suis pas assez bon pour que Dieu entende ma prière. » Et le ciel reste fermé. Peut-être que ça vous arrive. Ou vous vivez pour l'instant cela. Ou peut-être qu'un jour, vous allez vivre cela. Alors ce matin, je voudrais lire avec vous deux seuls passages. C'est déjà beaucoup, deux passages. Dans Actes, le premier c'est Actes chapitre 5 et nous lirons à partir des versets 17 à 20. Il est dit « Cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le partite et sadducéen, se levèrent remplis de jalousie, mis les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Deuxième passage, c'est toujours Actes, au chapitre 12, et nous lirons là les 12 premiers versets. Voici. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survient et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrirent d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voilà ce matin pour ces deux passages. quelques paroles sur le chapitre 5, quelques paroles sur le chapitre 12 et une seule application ce matin pour nous. Dans ce chapitre 5, nous voyons avant qu'il y avait beaucoup de personnes. Il est dit « le nombre d'hommes et de femmes augmentait de plus en plus ». Il y avait de plus en plus de croyants. Et on apportait les malades dans les rues, sur des lits, des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre couvre l'un et l'autre et il soit guéri. Les villes qui sont alentour de Jérusalem ont entendu ça. Ils ont amené les malades, ainsi les esprits mauvais ou impurs. Ils étaient tous guéris. Extraordinaire. Mais là, les sacrificateurs et les sadducéens étaient jaloux. Ils se levèrent et ils ont mis les mains sur les apôtres et les ont mis en prison. Ces 12 apôtres sont en prison. Et pendant la nuit, un ange du Seigneur a ouvert les portes de la prison pour les libérer. Mais cet ange dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie qui est la bonne nouvelle. » Voilà qu'ils sont libérés. Ces 12 apôtres pouvaient dire, « Waouh, on a échappé belle. » Non, c'est une émission ça, on a échappé belle. Non, on a risqué notre vie. Et il nous dit d'aller au temple. On pouvait mourir. Et pourtant, ces 12 apôtres sont partis au temple pour continuer leur ministère. Voilà un petit peu le chapitre 5. Le chapitre 12, le roi Hérode, c'est le petit-fils du roi Hérode le Grand. Le même caractère, la même lignée. Ce roi avait accumulé beaucoup de dettes à Rome, qu'il est parti en Palestine parce qu'il y avait de la colère. Tout le monde était fâché contre lui. Ce roi n'est pas bies. Pour gagner la faveur des autorités juives, il va persécuter l'Église, mais plutôt les apôtres. Il est dit que le frère de Jean, Jacques, est arrêté et il est mort par l'épée. Le plan de ce roi est une stratégie, parce qu'il est dit que les Juifs étaient agréables de voir cela. Alors il va aller un peu plus loin. Il va arrêter Pierre. En quelque sorte, c'est le capitaine des 12. Quand on arrête la tête, peut-être le corps va arrêter. Il arrête Pierre. Et Pierre, il est en prison. Je ne rentre pas en détail. Simplement, il est en prison. Et il dormait entre deux soldats. Puis aussi, un ange du Seigneur réveilla Pierre pour le faire sortir. Une fois sorti, l'ange quitta Pierre et Pierre réalise vraiment qu'il est dehors. Et il est parti chez Marie, mère de Jean, surnommée Marc, le compagnon de Pierre. Voilà, en quelque sorte, le résumé du chapitre 12. Chapitre 5, nous voyons 12 apôtres en prison libérés. Chapitre 12, Pierre en prison libéré. Magnifique. Extraordinaire. Mais ce matin, je voudrais m'arrêter où on ne fait pas trop attention à ce verset de ce chapitre 12, versets 1 et 2. Jacques, le frère de Jean, a été exécuté par l'épée. Qui veut dire, mes frères et sœurs, S'il a été exécuté par l'épée, ça veut dire qu'il a eu accusation contre Jacques, arrestation, mis en prison, et certainement que le lendemain, il a été exécuté par l'épée. Jacques est en prison, seul. Est-ce que Jacques a prié dans sa cellule pour demander à Dieu? Est-ce qu'il priait? Mais un apôtre, ça prie. Surtout quand il y a une douleur. Je ne sais pas si vous avez déjà rentré dans une prison. Quand vous rentrez là, il faut crier vers l'Éternel. Comme c'est horrible en prison. Il n'est pas maso, il prie, il demande à Dieu. Est-ce que l'Église priait pour Jacques? Mais s'ils ont prié pour Pierre, pourquoi ils n'ont pas prié pour Jacques? Est-ce que son frère Jean, l'apôtre Jean, n'a pas prié pour son frère? Moi, j'ai un frère. Et dès qu'il me téléphone pour me dire un souci, qu'est-ce que je fais tout de suite? C'est de prier pour mon frère. Et lui, il est apôtre. Est-ce qu'il n'a pas prié pour son frère? Pierre, son compagnon, est-ce qu'il n'a pas prié pour son compagnon? Bien sûr que oui. Alors vous allez me dire, parce que je me suis posé la même question, pourquoi Jacques est libéré et Pierre Jacques meurt et Pierre est libéré. Pourquoi Jacques meurt et Pierre est libéré? Ne cherchez pas la réponse. On ne la trouve pas la réponse. Le ciel est resté fermé. Certainement Jacques a dit au Seigneur, Seigneur, quand j'étais en prison avec les 12 apôtres, tu as envoyé ton ange pour nous libérer. Est-ce que les 11 apôtres n'ont pas dit la même chose? On était en prison. Libère Jacques. Tu l'as fait. Et le ciel restait fermé. Jacques, à chaque heure qui passait, la douleur augmentait, certainement. Et il se dit, Seigneur, viens à mon secours. Et le ciel reste fermé. Alors peut-être les doutes sont arrivés. Attends, un apôtre, avoir des doutes? Rappelez-vous de Jean-Baptiste. Il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Waouh! Mais quand il est en prison, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses disciples et il dit, allez demander à Jésus si c'est bien celui qui devait venir. En prison, ça change. Il y a 12 jours, en quelque sorte, quand nous passons dans des moments difficiles de douleur, dans ton esprit, il y a ce doute qui arrive. Et certainement que Jacques a eu ce moment de doute. Plus les heures approchées par l'exécution, la souffrance augmentait. Et le ciel restait tout le temps fermé. Je me souviens, il y a à peu près 4 ans ou 5 ans d'ici, un collègue me dit, ma fille a mal au genou. Certainement qu'elle s'est fait mal en gym. À cette époque-là, elle avait 18 ans. Et après examen, voilà qu'on voit qu'elle a un cancer au genou. Alors je lui ai dit, tu sais, je vais prier pour ta fille. on l'a opéré, on lui a fait de la chimio. Par moments, ça allait, par moments, ça n'allait pas. Et je lui disais, je prie pour ta fille, je prie pour ta fille. Voilà 4 ans qui est passé, presque 5 ans. Avant Noël, elle décède, 23 ans. J'ai été au funérarium. C'était pas au funérarium, c'était chez lui. Il avait un monde de fous. Quand je suis rentré et j'ai vu ce cercueil et ce collègue qui pleurait et pleurait, elle me dit, Gino, ça fait 3 mois qu'on le sait. Le lendemain, au travail, tout le monde parlait de cela. J'étais avec mon chef, face à face, et il me dit, Gino, tu trouves ça juste? J'ai ma mère qui est au home, elle a 93 ans, elle ne me reconnaît même pas, elle fait bouger à ses boutons de son gilet. Et cette fille, 23 ans qu'elle meurt. Pourquoi Pierre est libéré et Jacques meurt? Le ciel reste fermé. Certainement que Jacques se rappelle de tout ce que Jésus a fait durant son ministère sur la terre. Jacques a vu énormément de miracles et lui-même, avec les apôtres, ont fait des miracles. Et pourtant, le ciel reste fermé. Regardons un petit peu ensemble. Qui est-ce, Jacques? C'est le frère de Jean. Ce sont les disciples le plus proche de Jésus, avec Pierre et de temps en temps André. Mais Jacques, Jean et Pierre, ce sont les 3 personnes qui sont tout le temps avec Jésus. Ce sont eux qui passent le plus de temps en compagnie de Jésus. Jésus prend tout le temps ces 3 personnes pour être témoins. Comme dans Deutéronome, il fallait 2 ou 3 personnes pour témoigner. Et Jésus prend ces 3 personnes. Ce sont eux qui ont vu la résurrection de la fille de Jairus. Jésus ne voulait personne d'autre qui rentre dans cette maison, sauf Jacques, Pierre, Jean et les parents. Et voilà qu'il y a une résurrection. Cette fille est morte et elle ressuscite par la main de Jésus. Jacques a vu ce miracle. Dans cette cellule où il est seul, en train de prier, certainement qu'il se souvient de ce miracle de la résurrection. Jacques, Pierre, Jean ont eu un grand privilège. C'est d'assister à la transfiguration de Jésus. Eux trois ont vu le changement de Jésus-Christ. C'est impossible d'expliquer. Les 3 évangiles veulent expliquer cela, mais c'est impossible. Impossible, ils ne l'ont pas vu. Il n'y a que Jacques, Jean et Pierre qui l'ont vu. Et Jean ne l'écrit même pas, tellement que c'est quelque chose d'extraordinaire de voir Jésus avec cette lumière. Jacques l'a vu. Jacques a vu Moïse et Élie. Vous êtes déjà posé la question, comment ils ont pu reconnaître Moïse et Élie? Ils n'étaient pas dans l'Ancien Testament. 2 possibilités, peut-être vous avez une 3e. La première, c'est peut-être que Jésus a présenté Moïse et Élie. Ou la 2e, Moïse et Élie se sont présentés à Jacques, Pierre et Jean. Il y a eu une communion là, si vous regardez bien. Une relation, ils parlent ensemble. Extraordinaire. Moïse, qui représente l'ancienne alliance, est là en train de parler. Élie, qui représente tous les prophètes de l'ancienne alliance, est là. Ils ont eu encore ce privilège. Ils ont été enveloppés d'une nuée. Et là, il y a une voix qui sortit de cette nuée. C'est Dieu le Père qui est en train de parler. Il est en train de dire, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Quand ils ont entendu cela, ils sont tombés face contre terre et ils ont eu une crainte. C'est Jésus qui a dû mettre la main sur ses disciples, ces trois hommes, pour leur dire, « Soyez sans crainte. » Dans cette cellule où il est seul, certainement il se rappelle de cette lumière qu'il a vue. Moïse, Élie, cette voix. Mais il entend aussi la voix de Jésus. « Sois sans crainte. » Mais le ciel reste en tout temps fermé. Jacques et Jean, ces deux frères vont poser une question à Jésus. Pas une question, une demande. Il dit à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, dans ta gloire, l'un sera à gauche et l'autre à droite. Ou Jean à gauche, ou Jean ou Jacques à droite. C'est comme moi je dirais à Jésus, Jésus, moi à gauche et mon frère Salvatore à droite. Ça c'est dans Marc. Dans Matthieu, il est dit que c'est la mère qui pose la question, la demande. Une mère, il y a plus de points. Poigne. Surtout une mère italienne. Pas vrai, Thomas? Ah, la maman italienne, quand elle dit quelque chose, il faut l'écouter. Hein. C'est intéressant ce que Jésus va dire à ses deux disciples. Jésus répond, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Tous les deux répondent, « Nous le pouvons, » dirent-ils. Jésus répond, « Ok. » Non, il n'a pas dit « Ok, c'est moi qui dis ça, ok. » Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mes frères et sœurs, c'est intéressant ce qu'il dit Jésus. Jésus sait très bien que Jacques va mourir par l'épée. Jésus a entendu sa prière. Jacques sera le premier des 12 apôtres à connaître le martyre. Et Jean, lui, sera le dernier. Dans cette cellule, Jacques, peut-être qu'il se souvient de cela. Alors, peut-être que la dernière heure, Jacques change de direction envers sa prière. Il change de direction dans sa prière. Patrick a pris David, je voudrais le reprendre aussi. David, c'est intéressant ce que nous voyons dans le psaume 13. David prie d'un sens et puis il fait demi-tour et prie dans une autre direction. Écoutez ce qu'il dit au chapitre 13, verset 1. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, l'Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi. Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, regardez la fin de ce chapitre, une autre direction. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. Il y a une autre direction dans cette prière. La fin du psaume, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de son salut. Il y a une autre direction, et la confiance. Mes frères et sœurs, Jacques, Pierre, Jean, avant l'arrestation de Jésus, Jésus a pris ses 12 disciples et ils allèrent dans le lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit, asseyez-vous ici. Et il prend Pierre, Jacques et Jean, et ils vont un peu plus loin. Et il leur dit, il éprouvait vraiment de la frayeur et des angoisses face à la mort. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez. Jacques a appris une grande leçon, mes frères et sœurs, sur notre faiblesse, la nécessité vitale de prier face à la souffrance, de prier. Le ciel reste fermé, mais restez en prière face à la souffrance. Jésus revient vers ses 3 disciples et les trouve endormis. Effectivement, ils sont fatigués, ils sont endormis. Mais j'ai vu quelque chose que j'avais jamais remarqué. Luc, ce médecin, c'est pas n'importe qui, il est médecin. Et il dit la raison pourquoi il dort. Olivier, tu veux bien mettre Luc, chapitre 22, verset 45. Vous le lisez, et je ne sais pas, Luc 22, 45. Pourquoi il dorme? Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qui les trouva endormis de tristesse. Endormis de tristesse. Oui, de fatigue, mais de tristesse. Le désespoir de ses 3 disciples. Alors, parfois nous prenons Pierre qui dormait avec ses 2 soldats et ça m'arrive souvent de dire « Oh Pierre, il est tranquille, il dort, super !» Est-ce qu'il ne dormait pas également de tristesse? Mais quelle tristesse! Mais de Jacques, il vient de mourir, Jacques. C'est son compagnon, son ami. Il était tout le temps ensemble. Il dormait, mais il dormait de tristesse. Il savait qu'il allait mourir. C'est quand il était sorti dehors qu'il réalise vraiment qu'il est libéré. Mais pour lui, c'était l'exécution, comme Jacques. face à la souffrance, la nécessité de prier. Et Jacques a appris une grande leçon de Jésus. Jésus dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Toute chose est possible. Mais éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà la direction de la prière. Elle change de direction. Jacques sait très bien qu'avec Dieu, tout est possible. Ce qu'il a vu avec la fille qui a été ressuscitée, avec le visage de Jésus, tout est possible avec lui. Mais il a une autre direction qu'il a appris. C'est celle que Jésus dit. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est dur de dire cela. Mais Jacques, certainement, la fin, il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce qu'il avait confiance en la bonté de Dieu et le salut qu'il avait reçu. Jacques sait que Dieu n'agit jamais à l'encontre de sa nature, de sa volonté, de son plan. Mais Jacques avait confiance dans sa bonté. Il sait que Jésus est toujours à ses côtés dans son chemin. Le ciel est resté fermé à la prière de Jacques, mais le ciel était ouvert pour l'accueillir. Jésus était debout pour accueillir Jacques, pour être avec Moïse et Élie pour l'éternité. Alors, une seule application. À travers de la vie de Jacques, peut-être que tu vis pour l'instant cela, le ciel reste fermé. Ou peut-être que tu n'as jamais connu cela. Mais c'est une bonne préparation pour le jour où ça t'arrive. Le ciel peut rester fermé. Alors, j'ouvre une parenthèse et je la referme aussi vite. Parfois, le ciel reste fermé à cause de nos péchés. Nous sommes tous des pécheurs, mais rester fermé à cause de nos péchés, où on reste avec ses péchés et on ne confesse pas nos péchés. Le ciel reste fermé. Je referme cette parenthèse. Mais parfois, le ciel reste fermé. Et nos prières sont toujours dans la même direction, même dans la direction de dire « Tout est possible avec toi. Nous le croyons, nous avons un Dieu tout-puissant, je le crois. » Mais parfois, il y a une autre direction dans nos prières. Et la leçon, c'est « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est facile de le dire ça un dimanche, mais quand la douleur elle est là, c'est difficile. Mais Jésus nous promet qu'il sera avec nous tout le long de notre chemin. Ayons confiance en sa bonté. Sa bonté, c'est le salut que nous avons reçu. Le ciel reste fermé, mais le ciel est toujours ouvert à sa volonté. Et sa volonté, c'est le salut. Il est debout, Jésus, pour nous accueillir, mais il est debout également pour revenir nous chercher. Alors ce matin, et durant cette semaine, soyons comme David, je chanterai à l'Éternel, car il me fait du bien. Amen.